Bonjour, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu, le Dieu merveilleux, le Dieu magnifique, le Dieu grand, qui a préparé de grandes et belles choses pour ceux qui l'aiment, te bénisse aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai à cœur de te parler de choses merveilleuses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, que Dieu a préparées pour quiconque veut bien aimer Dieu et mettre sa confiance en lui, mettre son espérance en Dieu, parce que Dieu, il est merveilleux et c'est un Dieu d'amour. Dieu nous aime et Dieu nous appelle, nous les hommes, à la relation personnelle et intime avec lui. Dieu, il réserve un héritage pour quiconque veut bien être réconcilié avec lui et avoir une relation personnelle et intime, une relation d'amour avec lui. Avec lui, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a créés, celui qui nous a faits, et lui n'est pas une idole. Mais il est le Dieu véritable et il nous appelle à quitter les idoles. Il nous appelle à renoncer aux idoles. Il nous appelle à renoncer aux idoles, à renoncer aux faux dieux. Il nous appelle à renoncer à l'idolâtrie. Il nous appelle à renoncer aux religions mortes. Il nous appelle à renoncer aux faux prophètes et à leurs fausses doctrines. Il nous appelle à venir à lui, le Dieu tout-puissant, le vrai Dieu, le Dieu qui nous a été révélé dans la Bible. Le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le seul vrai Dieu, c'est le seul qui sauve. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut dans l'islam, il n'y a pas de salut dans le bouddhisme, il n'y a pas de salut dans le shintoïsme, il n'y a pas de salut dans le mormonisme, il n'y a pas de salut dans le vaudou. Il n'y a pas de salut de la sorcellerie, il n'y a pas de salut de la franc-maçonnerie, il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ et c'est seulement ceux qui sont en Jésus-Christ qui auront la vie éternelle et qui auront part à la gloire de Dieu, qui auront part au monde à venir, qui auront part aux grandes et belles choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler sur le sujet. J'accorde te parler de grandes et belles choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. J'accorde te parler de grandes et belles choses parce que Dieu a préparé de grandes et belles choses. Des choses à venir. Béni soit l'Éternel, de grandes et belles choses. Béni soit l'Éternel. Et ça commence maintenant même en acceptant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. En croyant au Seigneur Jésus, eh bien, on peut avoir nos péchés pardonnés parce que on a bien d'être pardonnés. Nous les hommes, nous sommes des pécheurs. Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait ce qui est mal et nous sommes nés séparés de Dieu. Nous sommes nés séparés de Dieu. Et depuis le ventre de la mère, on était déjà séparés de Dieu. Et Dieu appelle tous les hommes à revenir à lui. Et il nous appelle à être réconciliés à lui. Il nous appelle à recevoir le pardon de nos péchés parce que le péché d'Adam et d'Ève nous avait condamnés. Et à cause du péché d'Adam et Ève, nous sommes nés séparés de Dieu. Et nous sommes nés dans un état où on doit revenir à Dieu. On doit être réconcilié à Dieu. On a besoin d'être pardonné. Parce qu'il y a un jugement sur notre tête. Il y a une condamnation sur nous. Et nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes nés dans les ténèbres. Nous sommes nés séparés de Dieu. Et nous sommes nés spirituellement morts. Et on n'avait pas la vie de Dieu. On n'a pas de relation avec Dieu en étant sur la terre. On est sur la terre, on est de nos parents, il y a la naissance naturelle, on connaît pas Dieu, on le voit pas, on le connaît pas, on n'a même pas conscience d'être lui. Et à cause du péché, nous sommes nés dans un monde de ténèbres, mais Dieu a envoyé Jésus qui est la lumière du monde. Et par Jésus-Christ, on peut avoir la vie éternelle, par Jésus-Christ, on peut entrer dans une relation personnelle et intime avec Dieu. Béni soit l'Éternel, Jésus, la lumière du monde. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller à Dieu autrement que par Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel, et Dieu a préparé de grandes et de belles choses pour quiconque veut bien être réconcilié à lui par Jésus-Christ. En croyant la mort expiatoire de Jésus, en croyant la rédemption que Jésus a faite pour nous. Béni soit l'Éternel, Jésus nous a apporté la délivrance en mourant à la croix à notre place. Il a subi les châtiments qu'on méritait afin qu'on puisse être pardonné, qu'on puisse être sauvé, qu'on puisse être acquitté de nos péchés. Béni soit l'Éternel, qu'on puisse être pardonné, qu'on puisse être déclaré non coupable, qu'on puisse être déclaré innocent, parce que un innocent a pris notre place, Jésus a pris notre culpabilité, afin que nous, on n'ait pas à subir les châtiments que méritent nos péchés. On est coupable de péché. On est tous coupables, nous les hommes, du premier au dernier. Jésus seul était sans péché. Il s'est fait homme, c'est Dieu qui s'est fait homme, afin qu'il puisse payer la rançon pour notre affranchissement, pour notre libération de cet esclavage dans lequel on était, et pour qu'on puisse être délivré de la prison de péché dans lequel on était. On était des coupables, on était des criminels, des pécheurs. Et c'était l'enfer qui nous était réservé, mais Dieu voulait pas nous envoyer en enfer. C'était pas le désir de Dieu de nous envoyer en enfer. Il ne prend plaisir à envoyer personne en enfer. Il voulait pas que qui que ce soit se rentre en enfer. Il voulait nous sauver. Il voulait nous faire échapper cette chose terrible. Il voulait nous faire échapper cette tragédie qu'est l'enfer. Gloire à l'Éternel, et c'est pour ça que Jésus lui-même a accepté de payer le prix pour nous. Gloire à l'Éternel, béni soit Dieu. Et lorsqu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, eh bien voici, on a la sécurité éternelle. On est sûr éternellement, on n'a pas à avoir peur, on n'a pas à trembler. Plus de peur pour nous, plus de châtiment pour nous, plus de tragédie pour nous. Les choses lugubres, c'est pas pour nous l'enfer. Voici, on en échappe. On échappe à la seconde mort, l'éternel feu. On échappe au châtiment terrible. Béni soit l'Éternel, et on échappe au diable. Le diable le méchant, le tyran. Gloire à l'Éternel, béni soit Dieu. Alléluia. Et on échappe au juste châtiment de Dieu. Le châtiment de Dieu, c'est juste. La loi de Dieu est bonne. Et Dieu, lorsqu'il châtie, c'est parce qu'il n'a pas le choix de châtier, et il n'a pas à se soulever contre le jugement de Dieu, contre le fait qu'il châtie. Gloire au Seigneur. Le Seigneur, c'est un juste juge. Et parce que l'homme a péché, il y avait des châtiments. Mais Dieu, gloire à l'Éternel, dans sa bonté, dans sa bienveillance, dans sa miséricorde, à cause de sa grande compassion, de son cœur sensible pour nous les hommes, à cause de son grand amour, eh bien, Dieu a lui-même, c'est lui-même qui a amené la solution à l'homme. C'est lui-même qui a tout fait pour qu'on puisse être pardonné. Et qu'on n'ait pas à subir le châtiment terrible de l'enfer. L'enfer, d'ailleurs, ça n'avait même pas été créé pour l'homme, ça avait été créé pour Satan et ses anges. Ça avait été créé pour les démons. Le feu s'est écrit pour les démons, comme leur châtiment, parce qu'ils ont péché contre Dieu, ils ont fait ce qui est mal. Et ceux-là, les démons, ils avaient vu Dieu face à face. Ils avaient été créés dans la gloire de Dieu, ils étaient dans le paradis de Dieu. Ils ont vu Dieu face à face, et malgré cela, ils se sont révoltés contre Dieu. Et il n'y a pas de pardon pour eux, et Dieu a créé l'enfer pour comme lieu de jugement. Et en prison, quoi qu'ils ne sont pas encore dans le lac de feu, c'est à venir ça. Mais ça viendra, quoi qu'ils ont déjà été châtiés. Le diable, il fait le fanfaron et il agit comme si tout est, comme s'il est libre de faire tout ce qu'il veut, mais c'est pas vrai du tout. Le diable, c'est un renégat, c'est un rebelle et c'est un criminel. Et il a déjà été châtié par Dieu. Il a quelques libertés et c'est pour ça que Il se promène sur la terre et il fait du dégât, mais c'est Dieu qui permet ça. Et il peut pas faire plus que ce que Dieu lui permet de te faire. Et il vient et il est là et il nous fait du mal, mais il est déjà jugé, il est déjà condamné. La sentence est passée et un jour il va se retrouver dans une prison d'où il ne pourra sortir. Mais pour le moment, Dieu permet qu'il vienne sur la terre. Dieu permet qu'il vienne mettre les hommes à l'épreuve et tenter les hommes. Dieu permet ça et c'est pour comme séparer, pour savoir qui veut être avec Dieu. Et en tout cas, Dieu permet ça et le diable est là et c'est un ennemi et on doit se mettre en garde de lui. On doit se mettre en garde du diable. Dieu veut que nous les hommes, on aime Dieu. Dieu nous appelle à l'aimer lui, Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu révélé Jésus-Christ, car c'est lui que nous devons aimer. Mais Dieu nous permet Dieu nous permet de faire un choix. On a un choix à faire, nous les hommes. On a un choix à faire. Il y a Dieu, le Dieu Tout-Puissant, mais il y a aussi les idoles qui sont là. Et le diable est là, il vient pour nous tenter, pour essayer de nous séduire. Il met les idoles devant nous, et c'est à nous de choisir ce qu'on veut, qui on veut servir. Qui veux-tu servir, ce que tu veux servir? Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien est-ce que tu veux servir les idoles? Tu as le choix. Est-ce que tu veux servir le Dieu du sexe? Le dieu de l'argent qu'on appelle Mammon, est-ce que tu veux servir le dieu de l'argent, c'est-à-dire vivre pour la cupidité, pour sa cumulité richesse, et ton dieu c'est les richesses, avoir de plus en plus de richesses, c'est ça qui t'intéresse, et tu es prêt à faire n'importe quoi pour les richesses, tu vis pour les richesses, pour l'accumulation d'argent, et pour te satisfaire toi-même, pour avoir le plus de biens matériels possibles, et poursuivre ta carrière sans te soucier de Dieu, ou bien est-ce que tu veux bien revenir à Dieu et tu veux bien écouter la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ? On a un choix à faire. On a un choix à faire et il y a toutes sortes de religions. Celui qui veut la vérité doit vraiment chercher la vérité. Parce que le Zabella est en train de... Il a répandu tellement de menteurs. C'est pour ça qu'il y a tellement de religions. Parce qu'il y a un menteur qui est en train de se promener. C'est le diable. Et lui, on le voit pas. Hein, on le voit pas à l'œil nu, mais il est là. Les religions, ça vient de lui. Les religions comme le bouddhisme, le shintoïsme, le confucianisme, le vaudou, la santeria et la franc-maçonnerie, il y en a tellement. Et ça vient du diable. Ça vient du diable, ça on appelle ça les religions fabriquées par l'homme et que le diable a amené de la pensée de l'homme. Et le diable a amené ces choses-là. Le diable, c'est lui l'esprit religieux, l'esprit de séduction, l'esprit de faux prophète. Et il y a la vérité. Jésus est la vérité. Béni soit l'Éternel. Et il y a un seul Dieu créateur des cieux et de la terre, un seul qui sauve. Béni soit l'Éternel. Et pour le trouver, il faut le chercher. Celui qui aime la vérité, il faut aimer la vérité. Il faut chercher Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. Et Dieu lui-même nous a envoyé sa parole. Dieu lui-même nous a envoyé ses prophètes. Dieu lui-même est venu. Il nous a envoyé Jésus. Jésus, c'est Dieu lui-même qui est venu. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Donc, je vais vous parler de des choses à venir. Je vais vous parler en particulier du millénium. Béni soit l'Éternel. Parce que Jésus nous a fait savoir que il y aura ce qu'on appelle le millénium. Donc, je vais vous parler du millénium. Vous verrez ce qu'est le millénium. Peut-être vous avez déjà entendu parler un peu du millénium. Peut-être ce sera la première fois. Mais j'accorde de vous parler du millénium. C'est-à-dire, c'est le règne de 1000 ans du Seigneur Jésus sur la terre avec les rachetés, avec l'Église, les saints, les bien-aimés de Dieu, les sauvés, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau pour avoir cru au Seigneur Jésus. Béni soit l'Éternel, nous a promis qu'on va régner avec lui sur la terre. Donc on va régner sur cette terre même où on vit maintenant. Et on va régner avec Jésus, ceux qui sont morts, qui sont décédés. Béni soit l'Éternel, on sait qu'il y aura la résurrection des morts. Ça s'en vient. La résurrection des morts en Christ. Je parle de la résurrection de ceux-là, qui ont la foi en Jésus. Qui ont la foi en Jésus. Et pendant qu'ils marchaient sur la terre, qu'ils étaient dans leur corps sur la terre, qu'ils avaient la respiration, qu'ils étaient dans leur corps physique sur la terre, eh bien, Ils ont aimé Jésus, ils ont cru en lui. Ils ont cru la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ont cru la bonne nouvelle que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ils ont cru que l'Esprit du Seigneur est sur Jésus, et que Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer une bonne nouvelle du Seigneur, pour rendre libres les captifs, que Jésus est loin, que Jésus est le Messie, le Sauveur du monde. Ils ont cru qu'il est mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Donc, c'est tes enfants de Dieu. Ils ont reçu l'adoption, béni soit l'Éternel. Et lorsque le moment de la mort physique est venu, lorsque la mort, parce que on a la vie éternelle, mais ça ne veut pas dire qu'on ne meurt pas, c'est l'Esprit qui ne meurt jamais. On a la vie de Dieu à l'intérieur de nous, et on sera toujours en relation avec Dieu. Et on n'est jamais séparé de cette relation. Et l'Esprit de Dieu et l'Esprit de vie qui est venu habiter en nous, béni soit l'Éternel, il ne nous quitte jamais. Et on a la vie de Dieu. Béni soit l'Éternel, on a le Saint-Esprit en nous, on a la joie de Dieu en nous, on a, béni soit l'Éternel, on a la vie en nous. Et béni soit l'Éternel, lorsque la mort physique vient, parce que la mort physique viendra, la mort physique vient pour tout le monde, eh bien, lorsque la mort physique vient, l'enfant de Dieu lui monte et Dieu l'amène dans le paradis de Dieu, là où il y a le trône de Dieu. Là où il y a le palais de Dieu, Dieu a un trône. Eh bien, le trône est dans un palais. Et la Bible nous en parle. La Bible nous parle du trône de Dieu. Dieu assis sur son trône. Et il y a ce qu'on appelle les quatre êtres vivants. Dans un autre lieu de la Bible, on les appelle les séraphins, qui sont des êtres vraiment, des êtres très puissants. Il y a Dieu assis sur son trône. Béni soit l'Éternel. Le Dieu tout-puissant assis sur son trône. Il est entouré des 24 vieillards. C'était des hommes parmi les patriarches, les prophètes de l'Ancien Testament, comme par exemple Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Et parmi, par exemple, je pense bien que parmi ces 24 vieillards, il y a Abraham. Et il y a les apôtres du Seigneur Jésus, les 12 apôtres, qui sont la fondation le fondement de l'Église que Dieu a utilisé pour commettre des pierres que Dieu a placées pour amener la parole, béni soit l'Éternel, et gloire au Seigneur pour la fondation de l'Église, pour mettre comme le fondement de la chose. Il y a les apôtres, béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Donc, lorsque l'enfant de Dieu meurt, lorsque vient le décès, l'enfant de Dieu n'est pas fini. Celui qui a cru au Seigneur Jésus, qui est né de nouveau, qui a la vie éternelle, il a la vie éternelle justement. C'est l'esprit, son esprit né de nouveau, son esprit qui est un esprit vivifiant, son esprit qui est un esprit né de nouveau, un esprit qui a été régénéré, qui a la vie éternelle. Et bien son esprit monte. Dieu envoie un ange ou bien Jésus lui-même pourrait venir. Jésus envoie quelques-uns de ses anges venir le prendre pour l'amener dans le paradis de Dieu, là où il y a le trône de Dieu, là où il y a la nouvelle Jérusalem, ou bien Jésus lui-même parfois vient lui-même, il est là, et il prend son racheté, et il l'amène dans le paradis de Dieu, là où il y a le trône de Dieu, les 24 êtres vivants. Gloire au Seigneur. Si vous voulez voir entendre parler du trône de Dieu, eh bien, vous pouvez lire dans Isaïe chapitre 4. Je vais le lire rapidement. Révélation, Apocalypse chapitre 4. Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4. Et on va voir une vision que Dieu a donnée à l'apôtre Jean, qui a vu le trône de Dieu. Et qui a vu comment est le trône, ce qu'il y a dans la salle du trône de Dieu, le trône du Dieu de l'univers, de Dieu le roi, de Dieu sa majesté divine, du Dieu tout-puissant. Donc je lis pour vous, Apocalypse chapitre 4, il est écrit, « Après cela je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus saisi par l'esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Le trône était environné d'un arc-en-ciel. Donc le trône de Dieu, ça c'est le trône de Dieu, était environné d'un arc-en-ciel. On sait ce qu'on a un arc-en-ciel. Semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Donc voici les vieillards dont je viens de vous parler. Des vieillards revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Donc il y a 24 vieillards. Donc ces vieillards-là, en fait, quand on parle de vieillards, mais quoi que dans le ciel, vous savez qu'il n'y a pas de vieillards, que dans le ciel, il n'y a personne, dans le sens qu'il n'y a personne qui a l'air d'un vieillard. Mais c'est seulement leurs cheveux qui sont blancs. On les appelle les vieillards, mais il y a des gens qui ont déjà vu, qui ont eu des visions, et Et je crois ça que dans le ciel, tout le monde a l'aspect jeune, le visage jeune, la peau jeune. Et on les appelle les vieillards ici, mais c'est pas qu'ils ressemblent à des vieillards qui sont tous ratatinés comme les vieillards de la terre. Ils ont un beau visage, ils ont l'apparence de la jeunesse, la vigueur de la jeunesse, et ils ont un corps plein de santé, robuste, fort, pas un corps de vieillard ratatiné, visage plissé, non. C'est seulement, je pense, les cheveux qui sont blancs, et c'est pour ça qu'on les appelle des vieillards. Mais ils sont pas vraiment des vieillards, dans le sens que tout le monde a été rajeuni, qu'on va être le paradis de Dieu, tout le monde est rajeuni, tout le monde est rajeuni, il n'y a pas de vieillesse être le ciel. Il n'y a pas de vieillesse avec, comme si on marcherait avec un bâton. On est tous pleins de vigueur. Tout le monde retrouve sa vigueur et sa jeunesse et sa fraîcheur. Béni soit l'Éternel, sa vitalité. Gloire au Seigneur. Et donc, ici on les appelle très vieillards. Et ces vieillards-là, la Bible donne pas les détails, mais je crois que c'est parmi les apôtres et les patriarches. Quand je parle de patriarches, par exemple, Abraham, c'est un patriarche. Si le patriarche était juif du peuple d'Israël, Abraham, je pense qu'il est là. Et David, le roi David, le psalmiste David, qui était aussi un prophète, qui est très honoré. On voit qu'il est très honoré dans la Bible. C'est un ami de Dieu, c'était un homme fidèle, un homme de foi, très honoré de Dieu, et qui est une grande bénédiction pour tous les peuples à travers les psaumes qu'il a écrits, par exemple. Et c'est de David, c'est de la postérité de David, de la descendance de David, que vient le Messie, le sauveur du monde, Jésus. Donc il dit, donc je continue à lire, autour du trône je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Donc il y a des choses vraiment, impressionnantes. Du trône on voit sortir des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, sans semblable à du cristal. Donc devant le trône il y a comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux de devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face est un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au tout temps. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc, voyez ici, c'est une vision du trône. On voit ce qu'il y a dans le trône de Dieu. Donc Dieu nous donne un aperçu de son trône, de la chambre du trône, dans le palais de Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur, donc il y a des êtres précieux partout qui peuvent nous paraître un peu bizarres pour nous, mais ils sont pas bizarres, ils sont comme ça, il y a toutes sortes d'êtres. Et c'est des êtres très honorés de Dieu. Et ici, on les appelle des êtres vivants. Dans un autre endroit de la Bible, on les appelle les séraphins. Gloire au Seigneur, donc il y a les séraphins qui sont là. Qu'on appelle ici les quatre êtres vivants, des êtres vraiment très, très grands, très puissants. On en parle dans d'autres parties de la Bible, on en parle un peu. Donc, voici un aperçu du trône de Dieu. Donc, je disais que lorsque l'enfant de Dieu était sept, eh bien, on va là-haut dans le ciel, là où Dieu a préparé tes demeures pour nous. Il y a vraiment tes vraies demeures, il y a tes habitations, tes lieux d'habitation, il y a tes maisons. Et ces maisons-là, c'est des palais de princes. On est des princes, nous les enfants de Dieu, parce que notre Père, c'est le roi. Dieu qui est le roi et notre Père, donc Dieu a préparé tes habitations merveilleuses pour nous, tes manoirs, tes gens de palais pour les princes. Béni soit l'Éternel. Il y a tes immeubles administratifs aussi, parce que dans la ville, il y a toujours tes immeubles administratifs. Et je pense qu'il y a tes bibliothèques aussi, parce qu'il y a beaucoup de livres dans le ciel. Et moi, j'aime les bibliothèques. J'aime lire. Donc, je pense qu'il y a tes... Et je sais même qu'il y a tes... Il y a certainement des bibliothèques, parce qu'il y a plein de livres. Et si on veut aller lire, eh bien, on peut aller lire. Il y a toutes sortes d'immeubles. Je connais pas les détails, mais il y a toutes sortes de belles choses. Il y a tes plantes aussi là-haut dans le ciel, mais ces plantes-là ne meurent jamais. Il y a tes arbres. Par exemple, il y a l'arbre de la vie. Et il y a toutes sortes d'arbres, des arbres qui portent des fruits, la Bible en parle. Dans l'Apocalypse chapitre 21-22, on en parle. Il y a des arbres, il y a des animaux, par exemple, il y a les chevaux. On va revenir sur tes chevaux. Eh bien, les chevaux, c'est tes animaux. Mais ça ressemble aux chevaux de la terre, mais c'est plus beau. Et ces chevaux-là ne meurent jamais. Les chevaux qui sont sur la terre, eux, on sait que ils vivent seulement quelques années, ensuite ils meurent. Mais les chevaux, là-haut, le ciel ne meurt jamais. Parce que dans le ciel, dans le paradis de Dieu, il n'y a pas de mort. Même les fleurs ne meurent pas. Il n'y a pas de mort. Les animaux ne meurent pas. Les anges, on sait très bien qu'ils ne meurent pas. Et nous, on ne mourra jamais. On ne mourra plus jamais. Béni soit l'Éternel. On vit, on rentre dans un lieu vraiment magnifique. Magnifiquement. C'est magnifiquement beau le ciel. Dans le paradis de Dieu. Béni soit l'Éternel. Et on sait qu'on va retourner. La Bible dit que Jésus va revenir sur la terre avec les saints. Et les saints, c'est les rachetés de l'Éternel. C'est pas, le saint, c'est pas quelqu'un qui est mort, qui est décédé, et puis là, quelqu'un sur la terre lui a adressé des prières. On n'est même pas supposé adresser tes prières à tes personnes humaines décédées. Nos prières doivent être adressées à Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui qui est Dieu. Et si on n'a pas adressé, on ne doit pas adresser des prières à des personnes décédées. Que ce soit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ou n'importe qui, on doit prier à Dieu. C'est lui qui est Dieu. Donc, si quelqu'un t'a dit de prier à l'apôtre Paul, à l'apôtre Pierre, ne le fais plus. Cette personne-là t'a dit de faire une chose mauvaise. Et même, c'est une chose insultante à l'égard de Dieu, parce qu'il est Dieu. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui peut tout faire pour toi. Il est là. Et toi, au lieu de t'adresser à lui, tu vas t'adresser à un homme. C'est pas bien. Ne le fais pas. Mais adresse tes prières à Dieu. Béni soit l'Éternel. Et la Bible nous dit qu'on va revenir. On va revenir et on va régner avec Jésus. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Donc, je vais vous lire une partie rapidement où on parle de notre retour. Donc, on va revenir, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, et on va régner avec Jésus sur la terre, béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Donc, je vais vous lire ça plus tard, mais donc, quand l'enfant de Dieu meurt, il va là-haut dans le ciel. Et on sait que un jour, il y aura le jour aussi. On sait qu'il y aura un jour la résurrection des morts en Christ, la résurrection de tous les morts en Christ, le corps va ressusciter. Parce qu'ici, je disais que lorsque la personne meurt, l'âme monte, l'esprit de la personne monte, l'âme et l'esprit sont ensemble, ils montent et ils vont là-haut dans le ciel avec Dieu. Mais le corps reste sur la terre et il est dans le tombeau en train de pourrir. Mais ce corps-là, Dieu l'a pas abandonné. Un jour, Dieu a promis de ressusciter le corps, de le remettre en état de fonctionnement, de ramener ce corps à la vie. Et même, Dieu a promis de faire une transformation, parce que ce corps-là, comme dans la condition qu'il est là, même s'il serait, par exemple, sans maladie, il serait totalement reconstitué, mais il est fragile quand même, notre corps. Il est fragile, c'est un corps que, par exemple, avec ce corps-là, on peut pas traverser à travers le feu. Le feu peut nous brûler et faire beaucoup de mal. Et puis, même une petite aiguille peut nous faire du mal. Le corps... Il est fragile. Et même Jésus, dans le corps qu'il avait sur la terre, lorsqu'il marchait sur la terre, le corps qu'il avait, c'était un corps quand même, par exemple, il a saigné. Jésus a saigné. Et son sang coulait. Et lorsque les soldats le frappaient, ça lui faisait vraiment très, très mal. Lorsqu'ils lui ont mis la couronne d'épines sur sa tête, ça lui a fait mal et sa tête a enflé. Donc, il n'a pas de péché dans son corps. Il avait un corps parfait. Dans le sens qu'il n'y a pas de dysfonctionnement dans son corps, il n'y a pas de maladie, pas d'infirmité, pas de virus pour détruire son corps, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de péché non plus dans son corps pour causer du trouble dans son corps, pour causer des perturbations, mais cependant, lorsqu'il fut frappé, il a souffert, ça lui a fait très mal, donc quand même son corps, c'était quand même fragile. Mais lorsque on va ressusciter, nous, les enfants de Dieu, lorsque nos corps vont ressusciter le jour de la résurrection des morts, ce ne sera pas comme lors de la résurrection de Lazare que Jésus avait ressuscité. Jésus l'avait ressuscité momentanément, ensuite Lazare est mort plus tard. Mais la résurrection dont on parle ici, c'est une résurrection où on ressuscite avec un corps immortel, indestructible, un corps parfait. Et je vais vous montrer ça rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 15. Vous pouvez lire à propos du genre de corps qu'on aura. Et c'est un corps indestructible, immortel, incorruptible. C'est un corps qui ne peut jamais se détériorer. Et c'est un corps qui ne peut pas être détruit. Et il n'y aura plus jamais de maladie dans ce corps-là. Béni soit l'Éternel et ça va durer toujours. C'est un corps vraiment indestructible. Béni soit l'Éternel, immortel. Donc voici dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je ne vais pas lire tout le chapitre, mais je vais juste vous montrer là ce qu'il dit de ce corps-là rapidement. Donc 1 Corinthiens chapitre 15. Et je lis verset 35. Il est écrit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Insensé, c'est ce que tu sèmes ne reprend point vie. S'il ne meurt, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre semence, et puis tu lui donnes un corps comme il lui plaît à chaque semence. Il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Voyez-vous comme maintenant il est corruptible. Il peut se corrompre, il se détériore. Et même il pourrit lorsqu'il tombe en terre, par exemple, il pourrit ce corps-là. C'est de la chair, c'est de la viande, il pourrit. Il y a une mauvaise odeur qui s'en dégage. Et même les vers viennent dévorer ça. Il peut être dévoré par les vers et par les animaux. Il est corruptible. Ici, le corps est semi-corruptible, c'est-à-dire quand il tombe en terre et on met dans le tombeau, il est corruptible. Mais il dit, il ressuscite incorruptible, c'est-à-dire il peut plus se corrompre, il ne peut plus dégénérer, il peut plus être dévoré par les vers. Il est incorruptible. Il est semi-méprisable, comme par exemple lorsque quelqu'un meurt étant vieillard ou bien ravagé par la maladie, par un cancer. Eh bien, il est méprisable, il est dans un état, il est laid, et le corps est déformé, le corps est plein de maladies, ou bien lorsqu'il est vieillard, il est tout ratatiné. On n'est pas dans un bon état, les vieillards, et il a perdu tes cheveux, etc. On sait comment sont les choses. Donc, c'est pour ça qu'ici, il est semi-méprisable. Il ressuscite glorieux. Quand on va ressusciter, quand ce corps-là va ressusciter, ben, il sera glorieux. Il sera vraiment, oh, tellement beau, tellement vraiment, oh, magnifique. Un corps vraiment magnifique. Et même, ce corps-là va briller. Par exemple, sur la terre, ça brille, il va avoir un éclat. Et c'est pour ça qu'il parlait d'éclat, que le soleil a un éclat, la lune a un éclat, les étoiles ont un éclat. Bien, le corps qu'on aura, ce sera un corps brillant comme une ampoule. Ça brille. Béni soit l'Éternel. On va briller. Littéralement, ton corps va briller. Maintenant, ça brille pas du tout. Mais on va briller. Hein, ce sera beau, n'est-ce pas? Ton corps sera vraiment très beau. Tu auras la parfaite beauté. Vraiment parfaite beauté, plus de défaut. Ton nez sera parfait, ta bouche parfaite en beauté, vraiment. Ton corps vraiment magnifiquement formé. Aucun défaut. Aucun défaut corporel, aucun défaut du tout. Vraiment beauté parfaite, et tu peux même pas imaginer ça. Parce que le plus bel homme sur la terre n'est même pas du tout comparable. Béni soit l'Éternel, la plus belle femme, pas du tout comparable à comment tu seras, tellement tu seras beau, belle. Donc, il ressuscite incorruptible. Il est semi-méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semi-infirme, Il ressuscite plein de force. Béni soit l'Éternel. Donc, si tu es infirme, ne t'en inquiète pas. Dieu va, quand tu as ressuscité, tu seras certainement pas infirme. Si maintenant tu es dans une chaise roulante, sois sûr que quand tu ressusciteras, tu auras l'usage de tes jambes et tu n'auras jamais été aussi fort que tu n'auras jamais été aussi fort sur tes jambes. Béni soit l'Éternel. Donc, tu ressuscites plein de force. Tu vas ressusciter plein de force. Cette personne-là ressuscite plein de force. Il est semé. Il dit, il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. Donc, tu vois, même la nature change parce que maintenant, il est un corps naturel. C'est un corps physique et naturel. Mais quand il va ressusciter, il y aura même une transformation sur la nature de ce corps-là. Et il va ressusciter corps spirituel. Donc, il y a un changement qui est fait dans ce corps-là. C'est ce corps physique et voici, il y aura une transformation parce qu'il va ressusciter corps spirituel. Il est semé corps naturel, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 44, il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et étant même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc le corps ressuscité, il est vraiment magnifique. Beauté vraiment, oh, d'une si grande beauté, c'est la magnificence, c'est la splendeur, c'est la gloire, tellement c'est beau. Béni soit l'Éternel. Et intellectuellement, tu seras parfait. Mentalement, tu seras parfait. Mentalement, nous serons parfaits. Intellectuellement, parfait. Béni soit l'Éternel. Physiquement, parfait. Moralement, parfait. Béni soit l'Éternel. Émotionnellement, parfait. Sentimentalement, parfait. Béni soit l'Éternel, dans ta pensée, tu seras parfaite, tu auras une pensée parfaite. C'est pas ça que tu dois tout connaître, mais ta pensée est parfaite, c'est-à-dire tu fais jamais d'erreur, tu ne te trompes jamais dans ta pensée, dans tes raisonnements. Béni soit l'Éternel, si tu as un test à passer, tu vas réussir le test 100%, c'est ça que ça veut dire. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, tu seras parfait. Et ton esprit, bien sûr, sera parfait aussi, et ton âme sera parfaite. Et aussi, une chose très importante, pense pas qu'il y aura du péché en toi, hein? Il n'y aura pas de péché, bien sûr. Il n'y aura pas de péché en toi, pas d'impureté en toi. Béni soit l'Éternel, tu seras entièrement pur. Gloire au Seigneur. Donc, les morts en Christ vont ressusciter. La Bible le dit. Béni soit l'Éternel. Et ceux d'entre nous qui, dans ce jour-là, on sera encore vivants dans notre corps, la Bible nous dit que nous aussi, notre corps sera transformé, changé. En un instant, d'un clin d'œil, notre corps sera changé, transformé. Et on montera avec les morts qui se ressuscitent, pour aller passer 7 ans avec Jésus dans son paradis céleste, là où il a préparé la nouvelle Jérusalem pour nous. Et béni soit l'Éternel, il y aura les noces de l'agneau pendant ces 7 ans-là. Les noces de l'agneau, on sait c'est quoi des noces, n'est-ce pas? Des noces, c'est le mariage. Eh bien, un mariage sera célébré. Et celui qui va se marier, c'est Jésus qui va se marier avec son église, c'est-à-dire nous. Donc, il y aura une cérémonie de noces. Béni soit l'Éternel. Et ce sera des fêtes, des célébrations pendant ces 7 ans dans le ciel. 7 ans de fêtes pour nous là-haut dans le ciel, de célébrations, de gloire, d'honneur. On recevra tes récompenses. Béni soit l'Éternel pour ceux qui auront bien fait. Quoique tout le monde, après tous ceux qui sont là-haut dans le ciel vont célébrer, mais il y en a qui pourraient ne pas avoir de récompense, il y en a qui n'auront pas de récompense. Parce que quand ils étaient sur la terre, ils n'ont pas vraiment soucié de servir Dieu, de vraiment être obéissant. Ils ont cru au Seigneur, ils sont sauvés, ils ont la vie éternelle, mais ils n'ont pas vraiment servi Dieu. Ils n'ont pas vraiment donné de l'importance à vraiment servir Dieu, être très obéissant, etc., être fidèle. Donc, ils sont sauvés, ils ont la vie éternelle, mais les récompenses, ils n'auront pas de récompenses. Parce que d'autres auront un peu de récompenses, d'autres beaucoup de récompenses. Donc, il y aura un temps de distribution de récompenses. Et je pense que c'est en ce temps-là aussi qu'on va prendre possession de nos châteaux. Béni soit l'Éternel, parce que il y a des choses que Dieu prépare. Il y a des récompenses et toutes sortes de choses que Dieu prépare. Et ceux qui sont montés là-haut dans le ciel, ils n'ont pas encore pris possession de certaines récompenses que Dieu a donné dans un temps appointé pour ça. Gloire au Seigneur, il y a un temps de distribution de récompenses et c'est pas encore arrivé. De récompenses, d'honneur et de position, etc. Il y a de grandes et belles choses à venir. Gloire au Seigneur. Et pendant ces 7 ans-là, là où nous, dans le ciel, on va célébrer, se réjouir, on va fêter. Ce sera vraiment la fête. Et c'est un temps qu'on attend depuis tellement longtemps. Dieu attend ça depuis longtemps. Nous, on attend ça depuis longtemps. Et surtout, nous, on fait compte parce que Dieu, lui, il est toujours en train de se réjouir. Il est toujours en train de célébrer. Gloire au Seigneur. Et Dieu, lui, c'est comme il n'y a pas de temps pour lui. C'est plus nous, plutôt, qui avons tellement hâte que ça arrive, n'est-ce pas? En tout cas, moi, j'ai très hâte que ça arrive. Donc, il y a des temps de célébration là-haut dans le ciel. L'Église ne sera plus sur la terre. Les enfants de Dieu ne seront plus sur la terre, les rachetés. L'Église, nous l'Église, le corps de Christ ne sera plus sur la terre. Et sur la terre, dans ce temps-là, c'est ces temps-là, sur la terre, ce sera des temps de tribulation horrible pour la terre, pour les habitants de la terre. Ceux qui seront laissés en arrière, qui n'auront pas été enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus, pour être transportés de leur paradis de Dieu, ils vont passer des temps horribles, des temps de souffrance, de tribulation, des temps de tragédie où il y aura toutes sortes de choses horribles sur la terre. Mais ceux qui sont sur la terre auront encore la possibilité d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais ils vont passer des temps vraiment terribles, des temps de persécution. Si quelqu'un accepte Jésus, cette personne-là sera persécutée. Mais accepte Jésus, reçoit Jésus, crois au Seigneur Jésus parce que en croyant au Seigneur Jésus, eh bien, tu sauves ton âme et tu vas pas périr tu vas pas subir la seconde mort qui est en feu. Donc, il y aura des temps terribles sur la terre, des temps de persécution, il y aura beaucoup de morts, et ce sera un temps de jugement. Dieu va juger les habitants de la terre. Ce sera le temps où Dieu va juger les habitants de la terre et ce sera un temps aussi où Dieu va régler des choses avec le peuple d'Israël. Donc, Dieu va travailler beaucoup sur le peuple d'Israël pendant ce temps-là, ces temps de tribulation. Ce sera aussi le temps de tribulation pour le peuple d'Israël. Et, entre autres, il va être un temps vraiment très difficile. Et ensuite, donc, lorsque les 7 ans seront accomplis, lorsque les 7 ans seront terminés, Jésus va revenir. Ça, c'est le retour de Jésus sur la terre, physiquement. Il va revenir avec les saints, sur tes chevaux. Lui, Jésus sera monté sur son cheval blanc. Et nous, les rachetés, l'Église est Dieu, les enfants de Dieu, les princes que nous sommes, béni soit l'Éternel, eh bien, on va revenir, les enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, montés chacun sur notre cheval, on va revenir pour juger la terre et pour régner avec Jésus sur la terre. Jésus va venir et il va prendre les royaumes de la terre, il va venir et prendre possession de la terre et il va nous établir, nous, les enfants de Dieu, sur la terre pour régner avec lui. Donc, on va régner avec Jésus pendant 1000 ans. C'est ça qu'on appelle le millénium, c'est un règne où Jésus va rester sur la terre. Et cette terre-là sera purifiée, sera nettoyée par le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus va régénérer la terre. Le Seigneur Jésus va rénover la terre. Il va rénover, comme on fait une rénovation sur une maison. Eh bien, il va purifier, il va nettoyer, il va rénover, régénérer la terre. Il va guérir les cours d'eau, les rivières et les mers, etc. Il va guérir la terre, c'est comme la terre. Je parle de la planète, la nature a subi beaucoup de dégâts, de pollution, etc. Et même, il y a des temps à venir où la nature va subir encore plus de dégâts. Il va subir toutes sortes de dégâts. Il y a un temps pendant la tribulation, c'est Dieu lui-même qui va chasser la terre. C'est Dieu lui-même qui va frapper la terre. Eh bien, la terre, et on voit déjà la terre a subi tellement de pollution, tellement de dégâts. La terre sera restaurée. La terre sera régénérée. Et ce sera la même terre, mais la terre sera rénovée. Et on va régner avec Jésus sur cette terre-là. Et la terre va revenir à l'état qu'elle était lorsque Adam était dans le jardin d'Éden. Et on va régner avec Jésus. Et il y aura encore des hommes, cependant, dans un corps naturel sur la terre. Dans un corps naturel avec du péché en eux. Parce que lorsque Jésus va revenir, il va revenir et il y aura des gens sur la terre. Ceux qui auront pris la marque de la bête, qui auront pris la marque d'allégeance au système, au gouvernement diabolique qui sera sur la terre, qui auront fait alliance avec eux, qui ont repris la marque d'allégeance, le 666 sur leur front ou bien sur leurs mains. Ceux-là, il n'y a pas de possibilité de salut pour eux. Ceux-là, Dieu, ils vont tous se tomber, frapper d'une plaie, ils vont tous mourir. Et ils ne seront pas permis de continuer à vivre sur la terre. Mais ceux qui n'auront pas pris la marque de la bête, et eux, le Seigneur Jésus va régner sur eux. Il va permettre qu'ils continuent à vivre. Ils vont continuer à vivre. Et ils vont avoir des enfants, etc. Et ils vont vivre. Donc, je vais vous parler de ce temps-là. C'est en... on va lire dans... Ésaïe chapitre 60 et... Ésaïe chapitre 65, à partir du verset 17. Il dit, car je vais créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. Je ferai, c'est Dieu qui parle ici, Dieu dit, je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans se sera maudit. Ils bâtiront tes maisons. Et les habiteront, ils bâtiront tes maisons, ils les habiteront, ils planteront tes vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas tes maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas tes vignes pour qu'un autre mange le fruit. Ils ne planteront pas tes vignes pour qu'un autre mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours de tes arbres et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas tes enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau pèteront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel, merci Seigneur, béni soit Dieu, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia, béni soit l'Éternel. Donc ici, on voit, c'est un passage qui parle du millénium. Donc, dans le millénium, c'est le règne de 1000 ans de Jésus avec nous, l'Église, les rachetés. Et dans ce temps-là, on aura reçu nos corps glorifiés, ressuscités, le corps vraiment splendide, le corps vraiment, vraiment resplendissant de lumière incorruptible. On sera dans la perfection. Mais il y aura encore sur la terre des hommes qui sont des hommes comme nous, mais eux dans un état différent. Ils sont des hommes dans le naturel, des hommes avec un corps mortel, un corps où il y a encore du péché, et avec une âme et un esprit naturel comme maintenant on a. Et d'ailleurs, donc un corps naturel. Et nous, on sera des hommes, mais des hommes vraiment changés, transformés. On sera pas du tout le même genre d'hommes du tout que eux. Donc il y aura deux types d'hommes sur la terre. Et ceux qui seront dans le corps naturel, eh bien, ils devront faire un choix. Soit qu'ils vont accepter de se soumettre à Jésus, de l'aimer, de croire en lui, de le servir, de l'adorer, ou bien d'être rebelle. Et s'ils sont rebelles, s'ils refusent de se soumettre au gouvernement de Jésus, eh bien, ils vont mourir, et ils seront châtiés, et ils vont se retrouver dans le lieu pour les rebelles. Et leurs enfants aussi auront un choix à faire. Ils auront un choix à faire. L'évangile sera prêché sur la terre. Et je pense, je sais que c'est nous qui allons prêcher l'évangile. On va prêcher la bonne nouvelle parce que les enfants qui naîtront auront le choix aussi d'accepter Jésus ou de ne pas l'accepter, de croire en lui ou de ne pas le croire en lui. Et la Bible dit qu'il y aura encore des rebelles sur la terre. Et la Bible dit, voyez, qu'il y aura des pécheurs. Ici, le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc, ces hommes-là, il y aura encore des pécheurs. Et la Bible dit, si vous regardez, je vais vous lire un endroit où c'est écrit que le diable, ok, je disais, pendant ces 1000 ans-là, le diable, lui, il sera enfermé en prison, dans ce qu'on appelle l'abîme. Donc, dans un lieu qu'on appelle l'abîme, et tous les démons seront enfermés pendant 1000 ans. Et sur la terre, il n'y aura plus de démons sur la terre. Il n'y aura plus de démons du tout. Ils sont tous les démons du premier au dernier enfermés dans l'abîme. Je vais vous montrer où c'est écrit. Mais la Bible dit que lorsque les 1000 ans seront accomplis, les démons seront relâchés. Et ils seront relâchés pour aller sur la terre et séduire qui va se laisser séduire par eux. Vous voyez, je vais vous le montrer où c'est écrit. Donc, c'est écrit. Donc, je vais vous lire Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Il est écrit. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, il est écrit. Puis je vis au centre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Un ange avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, ferma, et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis tes trônes. Et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc ici, on voit qu'il y a une autre résurrection. Mais cette résurrection, cette fois-ci, c'est pour ceux qui avaient vécu pendant les 7 ans de tribulation dont je vous ai parlé, qui ont refusé de prendre la marque de la bête et qui ont été décapités à cause de cela. Eh bien, voici, le Seigneur Jésus les ressuscite et les fait régner avec lui pendant 1000 ans. Et aussi, donc il est écrit que je vis tes trônes et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc maintenant, on voit que il y a une autre résurrection. Ça, c'est la résurrection, c'est la résurrection de ceux qui sont morts pendant les 7 ans de tribulation. Ceux-là, ils seront ressuscités aussi. Et donc, vous voyez, ici, je disais que le diable était lié pendant 1000 ans. Maintenant, on va voir ce qui arrive après les 1000 ans, parce que après 1000 ans, il sera relâché. Il sera relâché de sa prison. Et on va voir pourquoi c'est marqué. Verset 7. Quand les 1000 ans se seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Vous voyez, il y aura encore la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils monteront à la surface de la terre. Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel. Il les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voyez donc, après les 1000 ans, il va sortir, c'est-à-dire le diable et les témoins, tous les témoins qui auront été tous, comme je disais, enfermés dans l'abîme pendant 1000 ans. Le diable qui est leur chef, leur capitaine, va sortir et tous les autres, les témoins vont sortir. Ils vont aller sur la terre où Jésus est, sur la terre où les saints sont, et sur la terre où il y a des hommes qui sont entre le naturel avec un corps naturel, et ils ont un choix à faire, et on voit que le diable va pour séduire, qui va se laisser séduire? Il va les hardir à se rébeller contre Dieu. Il va pour faire ce qu'il fait maintenant, hardir les gens, pousser les gens à s'irriter contre Dieu. Et donc, dans ce cas-là, vraiment s'irriter contre Jésus, contre son gouvernement, et se fâcher contre lui, dire pourquoi ceci, pourquoi cela, etc. Pourquoi c'est à lui de régner, puis entre ceux qui, pendant ces 1000 ans-là, auront été des rebelles, mais dans leur cœur, ils n'avaient pas l'hardiesse, ils n'avaient pas le courage de se révolter ouvertement, mais dans leur cœur, ils n'ont pas accepté le gouvernement de Jésus, ils n'ont pas aimé sa loi, ils n'ont pas aimé sa parole, ils n'ont pas voulu être lui. C'est pour ça que lorsque le diable sort, et le diable va pour séduire, eh bien, eux, ils se laissent séduire parce qu'ils ne voulaient pas être Jésus. Ils n'ont pas aimé son gouvernement, ils n'ont pas aimé sa façon de faire, ils n'ont pas aimé ses lois, ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont entendu de Jésus. Par exemple, ils aimaient plutôt l'ancien monde, ils préféraient l'ancien monde, la façon qu'étaient les choses avant le règne de Jésus, avant le gouvernement de Jésus, avant que, donc ils préféraient l'ancienne administration, comme on peut dire. Ils préféraient les choses avant, hein? Ils ont pris les choses comme dans la tête, ils ont préféré la débauche, etc. Et faire à leur tête, faire comme ils veulent, etc. Et se lancer dans la débauche, dans la sexualité libre, etc. Mais sous le gouvernement de Jésus, c'est un gouvernement de sainteté. On peut pas faire tout ce qu'on veut. On doit vivre vraiment la façon de Jésus, etc. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils n'en veulent pas de ce gouvernement-là. Ils n'en veulent pas de ce style de vie-là. Ils n'en veulent pas de la sainteté, de la pureté, pureté sexuelle, etc. Ils préfèrent les choses anciennes. Et en tout cas, ils sont rebelles. Et au lieu de... Ils n'ont pas accepté Jésus. Ils n'ont pas accepté parce qu'ils auront accepté Jésus comme maintenant, comme leur Seigneur et Sauveur, et choisir de se réconcilier, de tourmenter pardon, ou bien de ne pas tourmenter pardon. Et puis donc, s'ils sont séduits parce que là, c'était déjà dans leur cœur, il y avait déjà le péché, ils ne se sont pas débarrassés du péché, ils ne sont pas tourmentés par ton, puis la rébellion était déjà là, mais c'était une rébellion. Ils n'avaient pas la force d'aller ouvertement contre Jésus, mais le diable, lui, il enhardit les gens. Et il leur donne du courage, mais pour se révolter, qui est un mauvais courage, pour se révolter, pour protester ouvertement, pour prendre les armes contre Jésus. Et donc, ils ont pris les armes contre Jésus, poussés par des démons. C'est ça qui arrive ici. Vous voyez? Donc, l'homme est vraiment mauvais. Et pendant que Jésus régnait pendant ces 1000 ans-là, ces 1000 ans de paix, il n'y aura plus de guerre sur la terre. Plus de guerre, plus de prostitution, plus de disputes, plus de querelles, etc. Et c'est le ciel sur la terre. Mais ils n'aiment pas le ciel sur la terre. Parce que regarde, lorsque le diable est relâché, ils prennent les armes contre Jésus, ils vont contre Jérusalem et ils vont faire la guerre à Jésus. Parce qu'ils n'ont pas aimé ça. Donc les hommes, il y a des hommes insensés. Et le péché rend les hommes insensés. Quand l'homme aime son péché, eh bien, l'homme est insensé. Regarde ce qui arrive. Et c'est écrit, et ça va arriver. Donc, le péché, c'est une chose détestable au plus haut point, à se débarrasser. Il faut pas jouer avec ces choses-là parce que c'est terrible. Parce que regardez ce qui arrive. Pendant 1000 ans, Jésus est sur la terre. Et aussi, nous voit, nous, les saints ressuscités dans notre gloire. Et ce que ça nous a apporté, d'aimer Jésus, de se repentir de nos péchés, d'aimer son gouvernement, d'aimer sa parole, d'aimer la sainteté, d'aimer la pureté, et d'accepter la parole de Jésus, d'accepter de se soumettre à lui, de se soumettre à son gouvernement, au gouvernement de Dieu, de se repentir, de se soumettre humblement, et de rejeter l'orgueil, etc. Ce que nous a apporté de croire en Jésus, ça nous a apporté l'honneur, la gloire, l'immortalité, ça nous a apporté d'avoir un corps glorieux, immortel, indestructible. Ça nous a apporté de régner avec Jésus. Donc, on a beaucoup d'honneur et de puissance et d'autorité. Et tout ça, c'est aussi pour eux aussi. Si seulement ils veulent bien faire comme nous, se repentir, croire au Seigneur Jésus, rejeter le péché et se purifier, accepter d'être lavé par le sang de Jésus, etc. Aimer son gouvernement, aimer sa parole, aimer la sainteté, aimer la justice, aimer la loi de Dieu. Mais il y en a, ils vont pas aimer ce gouvernement-là. Ils vont pas aimer la façon de Dieu. Ils vont pas aimer la sainteté parce que aussitôt que le diable est relâché et le diable les pousse à même prendre les armes contre Jésus. Mais voici ce que la Bible dit. La Bible dit, ils montèrent à la surface de la terre, donc les témoins, hein, ici, Ils montèrent la surface de la terre et ils investirent le camp très saint et la ville bien-aimée. Mais un feu était senti du ciel, il les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu, de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc les démons vont sortir et ils vont aller enhardir les gens. Je ne sais pas combien de temps ça leur prendre, mais finalement, il y a des hommes dans le naturel, des hommes encore qui ont le péché, qui avaient un choix à faire, et ils n'ont pas voulu être Jésus. Quand le diable, les démons sortent, les démons rentrent en eux et les démons les poussent à l'automne, l'hardiesse pour aller se révolter contre Jésus. Et ils font un plan, je suppose, un plan de guerre contre Jésus. Et puis ils se soulèvent contre lui et contre l'Église aussi, contre nous qui nous règne avec Jésus. On est le gouvernement de la terre dans ce temps-là. Ils vont se révolter et puis ils vont prendre les armes pour faire la guerre comme s'ils pouvaient gagner. Et puis ils seront chassés, ils seront détruits. Hein? Donc, et c'est comme ça que se finit le règne de 1000 ans de Jésus. Après les mille ans, c'est là que vraiment Dieu va créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Les cieux ici parlant de les cieux étoilés, parlant de le firmament, les planètes, les étoiles, eh bien, Dieu va créer un nouveau firmament avec les étoiles, etc., et une nouvelle terre, une nouvelle planète Terre. Parce que quand je disais le règne de Jésus pendant 1000 ans, la Terre, c'est pas une nouvelle Terre, mais c'est la même Terre, mais rénovée, régénérée, comme la Terre a été rénovée, elle a subi une rénovation, comme quand on rénove une maison. Mais c'est la même terre. C'est comme une maison qu'on rénove. C'est pas qu'on a détruit, complètement rasé l'ancienne maison pour en faire une toute nouvelle. Mais c'est la même maison qu'on a rénovée. On a mis des pièces neuves, etc. On a enlevé ce qui est pas bon et on l'a rénovée. C'est une rénovation. Donc, pendant les 1000 ans, c'est une terre qui sera rénovée. Et après les 1000 ans, eh bien là, Dieu va faire disparaître l'ancienne terre. Dieu va embraser les cieux et la terre. Quand on parle ici, je parle pas les cieux parlant là où il y a le trône de Dieu, mais je parle les cieux parlant de l'atmosphère terrestre et parlant de l'espace avec les planètes, les étoiles, tout ça, ça sera embrasé par le feu de Dieu, et Dieu va créer dans cela une nouvelle terre, complètement nouvelle, et un nouveau ciel, complètement nouveau. Exactement comment ce sera, je ne sais pas, mais c'est nouveau, donc Dieu va faire quelque chose de nouveau. C'est une terre, mais je suppose beaucoup plus grande que maintenant, et tes cieux, en tout cas, changer, tes nouveaux cieux. Comment ce sera, je sais pas, on verra. Lorsqu'elle viendra ce temps-là, on verra bien. Et puis, alors, le diable, lui, rappelez-vous que là, maintenant, il a été jeté dans le lac de feu pour ne plus jamais sortir de ce lac de feu. De cet lac de feu, il est là pour toujours maintenant. Et on aura fini de combattre le diable. On aura fini de le combattre et de lui faire la guerre. Béni soit l'Éternel. Donc, je vous ai parlé un peu des choses à venir. Il y a des belles choses à venir pour ceux qui aiment Dieu. Gloire au Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse et puis faites le bon choix. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus, faites le bon choix, accepte Jésus, crois en lui. Et si tu es l'enfant de Dieu, demeure attaché à ton Dieu, ne te laisse surtout pas séduire. Prépare-toi pour le jour de l'enlèvement de l'Église. Et puis de toute façon, on doit tous partir. Parce que notre vie sur la terre, on sait très bien que c'est rare les gens qui arrivent à 100 ans. Donc, c'est rare que les gens qui arrivent à 100 ans, la majorité des gens, ils se rendent à 80, 85, 90, même c'est rare les gens qui arrivent à 95. Donc, quand même, on doit partir, et le maximum maintenant, c'est 120 ans, ça a été réduit à 120 années. Donc, on doit tous partir de toute façon, et il faut se préparer pour être prêt, pour être bien purifié, bien sanctifié, et prêt à rencontrer notre Dieu. Et sois sûr d'avoir reçu le Saint-Esprit. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Alors que Dieu te bénisse. Au revoir.